Nous aborderons ce matin le troisième volet de notre série de prédications sur Noé. Et le fil conducteur de notre méditation ce matin, ça pourrait se résumer en ceci. Comment Noé pourrait-il nous aider à glorifier Dieu au quotidien? Comment est-ce que son exemple peut nous inspirer? Alors je commencerai par rappeler brièvement le contexte en faisant quelques lectures. Et vous voyez que sur le diaporama, il y aura deux colonnes. Une colonne pour le texte lui-même, Noé, et puis sur la droite, plutôt comment on peut l'appliquer aujourd'hui pour nous. Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Alors l'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre. Il en eut le cœur affligé. Il dit alors, « Je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés. » C'est un constat assez dramatique de voir cette situation où Dieu est amené à décréer le monde d'une certaine façon. C'est une image qui sera développée peut-être un peu plus tard dans le déluge. Dieu va défaire une bonne partie de ce qu'il a créé. Et comment ne pas faire le parallèle avec notre monde d'aujourd'hui? Alors on n'en est peut-être pas au stade où Dieu a décidé de mettre fin aux choses, mais cela nous rappelle que l'homme qui se pense civilisé revendique son autonomie, sa liberté de faire, ce qui lui plaît. Tout est centré sur l'individu, sur son épanouissement personnel, sur la réalisation de soi. Dieu est peut-être encore toléré, mais il doit rester dans la sphère privée. Obéir, se soumettre, ça c'est des mots qu'on n'aime plus entendre à notre époque. Chacun sa vérité. Cela nous avait été annoncé par l'apôtre Paul dans la deuxième épître à Timothée. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, je saute toute la litanie de choses désagréables à entendre, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et je me disais que notre société porte encore des traces de valeurs chrétiennes, de ce que Dieu a voulu mettre dans le cœur des hommes, mais faute d'aller à la source, eh bien, ces taches s'estompent et les traces deviennent de plus en plus difficiles à discerner. Alors je me suis posé cette question, mais comment faire aujourd'hui dans un monde qui ne veut plus vraiment entendre parler de Dieu? Comment faire pour honorer Dieu? Comment faire pour annoncer encore son message à des gens qui sont complètement accaparés par d'autres pensées, par d'autres philosophies? La première réponse que nous donne Noé, c'est par notre comportement. Noé, lui, a su marquer sa différence, puisque si on lit le verset 9, toujours au chapitre 6, Noé était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. Il conduisait sa vie sous le regard de Dieu. Noé a été déclaré juste par Dieu, alors qu'aujourd'hui chacun se trouve juste à ses propres yeux. Cela ne signifie pas que Noé n'avait pas péché, mais en tout cas qu'il ne pratiquait pas le péché, c'est-à-dire qu'il ne péchait pas régulièrement, volontairement. Noé était intègre. Alors quand j'ai consulté un dictionnaire, intègre, le premier sens c'est honnête, mais ça a un autre sens aussi qui est le sens d'être entier, de ne pas être partagé. Le cœur de Noé était intègre, d'un seul bloc. Il refusait toute forme de compromission avec le péché, même s'il restait pécheur. Et j'avais lu il y a longtemps dans un livre de Jules Marcel Nicole une pensée qui m'avait fait du bien, où il disait « L'homme est pécheur, mais comment sait-on qu'on est chrétien et régénéré ? C'est quand on vit dans un état habituel de bonne conscience avec Dieu. » Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des à-coups, il n'y a pas des échecs, mais globalement, on a notre conscience en règle avec Dieu. Et Noé marchait avec Dieu, nous est-il dit. L'imparfait souligne ici que c'est une démarche habituelle, durable, constante. La préposition « avec » marque une communion d'idées, une intimité avec Dieu. En cela, Noé se conformait à la volonté de Dieu. Et je citerai deux versets qui nous disent quelle est la volonté de Dieu pour nous. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. « Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte, que vous vous absteniez de toute immoralité. » On voit bien que Noé était déjà dans cet esprit-là. 1 Pierre 2, verset 15. Là, je vous le lis dans la version second 21, alors que les autres lectures sont la plupart du temps dans la Bible du Semeur. C'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Je vous le relis parce que cette traduction, je ne la connaissais pas bien. La volonté de Dieu, c'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. On a presque là une recette, comment faire taire toutes ces revendications, ces contestations. Parce que si on revient à l'époque de Noé, je ne sais pas si vous êtes posé la question, quelle a bien pu être la réaction des contemporains de Noé quand ils l'ont vu se mettre à l'œuvre et entreprendre la construction de l'arche? Mais Noé, qu'est-ce que tu fais? Un bateau? Ben, il n'y a pas d'eau. Comment tu vas le mettre à l'eau? Puis, t'as vu la taille du bateau? C'est complètement fou. C'est délirant. T'y arriveras jamais. T'es seul. Puis regarde, t'es vraiment tout seul. Tous les autres font autre chose. Pourtant, Noé ne se laissera pas impressionner par l'énormité de la tâche que Dieu lui confie. Il se met à l'œuvre. Et c'est là sa réponse. C'est là son témoignage, on dirait aujourd'hui. C'est lui, c'est sa façon à lui de mettre en œuvre sa foi, ses convictions profondes. La construction de l'arche, du moins les directives de Dieu, nous sont données dans Genèse au chapitre 6, et je vous invite à cette lecture, à compter du verset 13. Alors Dieu dit à Noé, « J'ai décidé de mettre fin à l'existence de toutes les créatures, car à cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence. Je vais les détruire ainsi que la terre. Mais toi, construis un grand bateau en bois résineux. Tu en diviseras l'intérieur en compartiments, et tu l'enduiras intérieurement et extérieurement de goudron. Voici comment tu feras. Tu lui donneras 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. Tu ménageras une ouverture dans le haut du bateau, un espace de 50 cm entre les côtés et le toit que tu fixeras par-dessus. Tu mettras la porte du bateau sur le côté. À l'intérieur, tu disposeras 3 étages. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire sous le ciel tout être animé de vie. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi et tu entreras dans le bateau, toi, tes fils, ta femme et tes belles-filles avec toi. Tu feras aussi entrer dans le bateau un couple de tous les êtres vivants, c'est-à-dire un mâle et une femelle de tous les animaux, pour qu'ils en restent en vie avec toi. De toutes les sortes d'oiseaux, de quadrupèdes et d'animaux qui se meuvent à ras de terre, un couple viendra vers toi pour pouvoir rester en vie. Procure-toi aussi toutes sortes d'aliments et fais-en provision pour vous en nourrir, toi et eux. Noé obéit et fit tout comme Dieu le lui avait ordonné. Dieu commence par indiquer à Noé la raison pour laquelle il lui demande de construire une arche. Il va exercer son jugement sur l'humanité qui pratiquait le mal. En se mettant au travail, Noé dit son approbation et sa communion de pensée avec Dieu. Il sera à la fois acteur, modestement, ce n'est pas lui qui tient le rôle principal dans cette situation, mais il sera quand même acteur dans l'exercice du jugement, tout en participant à l'œuvre de salut de la création, voulue par Dieu. Noé continue ainsi à marcher avec Dieu, à être juste et intègre. Et la question peut choquer peut-être, mais pourquoi continuer à témoigner aujourd'hui quand les gens ne veulent pas nous écouter? Je pense que vous connaissez tous ce verset qui dit « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut ». À l'époque, Dieu voulait sauver une toute petite partie de l'humanité. Aujourd'hui, Dieu veut encore sauver. Et donc, voilà pourquoi nous sommes encore appelés à témoigner, comme Noé a eu à le faire par son attitude. Ce qui m'a frappé ensuite aussi, c'est la précision des instructions de Dieu. C'est un peu comme si Dieu livrait à Noé un plan d'architecte, en détaillant les dimensions de l'ouvrage, sa distribution intérieure sur 3 niveaux, la position des ouvertures, les matériaux à utiliser, comment rendre l'arche étanche et capable de flotter. Les instructions de Dieu étaient probablement indispensables pour que Noé puisse construire cette arche. Je ne connais pas les qualifications de Noé, je ne sais pas s'il avait déjà construit des barques ou des bateaux, mais une arche de cette taille-là, j'ai lu qu'on avait construit ça qu'à partir du 19e siècle, des bâtiments aussi importants. Et donc Noé avait besoin de ce plan détaillé. Elles furent donc une aide précieuse, toutes ces directives. Mais en même temps, vous vous imaginez, voyant toutes ces instructions, et puis après de dire, il n'y a plus qu'à. Oui. Quel gigantisme! Apparemment, c'est impossible de relever un pareil défi. Eh bien, Noé n'a pas laissé l'immensité de la tâche à accomplir le décourager. Il obéit et il fit tout comme Dieu le lui avait ordonné. Et l'arche, c'est pas un petit peu, hein? Tout. Il n'a pas fait le travail à moitié, aux 3/4 ou à 99%. Tout. Et comme il n'a pas pris d'initiative, il ne s'est pas dit, tiens, à ce moment-là, on pourrait gagner un peu de temps en faisant comme ci ou économiser un peu de matériaux en faisant comme ça. Il a suivi à la lettre les instructions de Dieu. Et son attitude, peut-être pour certains, sera considéré comme de la servilité, un manque d'imagination. Bon, il obéit, il est docile, ce n'est pas un mot très flatteur. Moi, j'y vois au contraire la marque d'une confiance, d'un crédit apporté à l'autorité et aussi la reconnaissance de l'autorité que Dieu accorde aux paroles de Dieu. Ce faisant, il honore Dieu, car ce qu'il fait montre qu'il prend au sérieux ce que Dieu lui demande, même si cela semble hors de portée. Nous aussi, nous avons reçu des consignes précises de Jésus-Christ. Si je vous dis Matthieu 28, 19, ça vous parle? Ce sont les derniers versets de l'évangile de Matthieu. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là encore, la tâche est immense. Ne serait-ce qu'amener une seule personne à Dieu. Voilà déjà un sacré programme. Hébreux 10, verset 36 nous dit: vous avez besoin de persévérance, d'arbitre traduit par vous avez besoin de patience, pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Noé a su faire preuve de patience et de persévérance. La parole nous dit qu'il s'est mis au travail à l'âge de 500 ans et qu'il a terminé alors qu'il avait environ 620 ans. 120 ans. Alors pour nous, 120 ans, on l'envisage même pas. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de faire une règle de 3. Aujourd'hui, on ne vit plus 950 ans, mais à peu près 85 ans. Donc c'est un peu comme si Noé avait commencé à 45 ans et il aurait fini à 56 ans. 11 ans de sa vie à ne faire que ça. Que pensez-vous que se diraient les gens si vous voyez attelé à une même tâche 11 ans d'affilée, du matin au soir, sans jour férié, sans RTT? Certains se diraient, il est fou. Mais je pense qu'il y en a aussi qui se diraient, c'est quand même bizarre. Il a l'air normal. Il doit quand même y avoir quelque chose qui le motive pour faire tout cela. Pourquoi s'infliger autant d'efforts? Vos voisins vous ont jamais blagué comme ça en disant, mais vous êtes courageux tous les dimanches matins quand même. Quand ça fait des années qu'ils vous voient partir, quelquefois en courant, avec l'enfant qui finit d'enfiler sa veste, enfin vous voyez, bon, quand même ils se disent, ça fait 10 ans que ça dure, quoi. C'est quand même une forme de témoignage. Pas d'être en retard, hein, je veux dire, c'est pas ça qui les convainc. Hein. Mais d'avoir le courage de continuer et d'y aller, même si on est en retard. Lorsque nous entreprenons quelque chose, il y a souvent beaucoup d'exaltation au moment de la conception, du démarrage, du début, de la mise en œuvre. Puis on sait bien que dans un projet, il arrive un temps où il y a une certaine lassitude. Les choses n'avancent pas aussi vite qu'on voudrait, il y a des pépins en cours de route, tout ne se passe pas comme on a prévu. On peut être découragé. D'ailleurs, l'Écriture ne nous dit pas si Noé n'a pas eu quelques jours de découragement sur les 120 ans. Mais l'Écriture nous a simplement dit, c'est ça qui était l'important, c'est qu'il a mené sa tâche à son terme. C'est ça qui importe. Et cela me fait penser à l'enthousiasme du jeune converti qui veut partager sa foi, donner son témoignage à tout son entourage. On dit quelquefois il est tout feu, tout flamme. Il n'est pas toujours bien reçu, quelquefois oui. Puis quelques années plus tard, l'ardeur s'est un peu refroidie. On a peut-être eu des échecs. C'est peut-être faire rembarrer quelquefois. Ça peut décevoir. Ça peut faire douter de l'efficacité de notre témoignage. Bah oui, moi, j'y arrive pas. Et puis, je l'ai déjà apporté, mon témoignage. Ils l'ont déjà entendu. Alors, à quoi ça sert d'en reparler? Pourquoi est-ce qu'ils se laissaient convaincre alors que la première fois, ils n'ont pas été convaincus? La persévérance de Noé a contribué au salut de sa famille, des animaux, même si cela n'a pas suffi à sauver tout le reste de l'humanité. Et quelle a été la part de Noé? Pas des grands discours bien pensés, mais un dur labeur. Je ne sais pas si vous imaginez, mais vous levez tous les jours pendant 120 ans pour scier, pour rassembler, pour enduire. C'est pas des tâches... Enfin, loin de moi l'idée de dévaloriser le travail manuel, hein, je veux dire. Mais enfin, c'est quand même ingrat de répéter sans cesse les mêmes tâches. Alors on peut se demander, mais où Noé a-t-il trouvé la force et la motivation pour continuer? Je vous lirai quelques versets dans Hébreux au chapitre 11. Là, c'est une version plus développée, c'est dans Parole vivante. Sans la foi, puisque nous l'avons déjà dit, hein, c'est la foi qui a mis Noé en œuvre, sans la foi, il ne saurait être question d'être agréable à Dieu. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour être en communion avec lui, il faut bien d'abord qu'il croie à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. C'est la foi qui a fait agir Noé. Dieu lui avait parlé d'événements futurs que rien ne laissait prévoir. Noé prit son avertissement au sérieux et il s'est mis à construire l'arche dans laquelle toute sa famille a été sauvée. Sa foi a rendu manifeste l'incrédulité de son entourage. Il a ainsi obtenu d'être déclaré juste devant Dieu à cause de sa foi. Je relis. Dieu lui avait parlé d'événements futurs que rien ne laissait prévoir. Est-ce que ce n'est pas un peu notre cas aussi? Je n'ai pas une révélation exceptionnelle que vous n'ayez pas reçue. Mais combien de nos contemporains savent qu'il y aura un jugement? Le souvenir que j'évoque ici remonte à il y a une trentaine d'années, où il y a eu une distribution des petits bleus, des Gédéons, à la sortie de mon lycée. Et le lendemain, en grimpant les escaliers pour aller en cours, j'entends une discussion entre élèves. On avait fait une campagne d'affichage en même temps dans le lycée pour rappeler un peu la distribution des Nouveaux Testaments. Et comme il est interdit de présenter la Bible uniquement sous l'aspect religieux, on avait choisi l'aspect culturel en donnant des versets qui sont passés dans le langage commun, qui a dit « rendez à César ce qui vient à César », etc. Bon. Et une élève montait, voyait l'affiche et dit « qu'est-ce que c'est ça ?» Et l'autre lui dit « mais si tu sais bien, c'est le livre hier ». Et ça m'a fait prendre conscience que plein de choses qu'on croit connues des gens dans la culture, eh bien, la génération qui avait 16-17 ans il y a 30 ans n'avait jamais entendu parler de l'Évangile. Connaissait plus. Ma génération est pour la plupart du temps allée au catéchisme, a entendu parler, en a tenu compte ou pas, mais on est dans un monde où il ne faut pas s'étonner que beaucoup n'aient jamais entendu la moindre parole de Dieu. Dieu avait parlé d'événements futurs que rien ne laissait prévoir. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne s'attendent pas un jour à être confrontés à leur Créateur. Dieu a annoncé que chaque homme passera en jugement et que le moyen d'échapper à la condamnation, c'est de reconnaître que Jésus-Christ est mort sur la croix à notre place. Notre mission, ce n'est pas de construire une arche, et ça j'en suis reconnaissant, pour moi en tout cas, mais c'est d'annoncer le message de l'Évangile et de faire des disciples, nous a-t-il été rappelé. La foi, c'est la confiance que nous plaçons en Dieu, c'est le crédit que nous accordons à sa parole, une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celle qu'on ne voit pas, nous est-il dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1. La foi, c'est aussi, comme nous l'avons lu, l'assurance de la récompense promise par Dieu. Et la perspective de cette récompense peut nous aider à persévérer. Noé a été à la fois visionnaire et laborieux. Visionnaire parce qu'il a cru à ce que Dieu annonçait et qu'il savait pourquoi il construisait l'arche et pourquoi il s'imposait autant de labeur. Et je crois que nous aussi, nous avons besoin d'être visionnaires, de savoir pourquoi nous faisons les choses. L'obéissance aveugle, en tout cas en ce qui me concerne, ça n'a qu'un temps. Moi, je veux bien faire confiance à quelqu'un un certain temps, mais il y a un jour où je dis, bon, j'aimerais quand même bien savoir pourquoi je fais tout ça. Vos enfants vous ont jamais demandé, enfin, si vous avez des grands-enfants, pourquoi vous leur avez imposé un certain temps certaines règles ou demandé certains efforts. Il y a la réflexion, quelquefois, vous n'êtes pas toujours à l'aise pour leur répondre. Nous sommes ainsi faits que nous voulons comprendre, nous voulons savoir le pourquoi des choses. Et nous avons besoin de savoir dans quel but nous le faisons. Noé, lui, savait pourquoi il construisait l'arche. Nous savons pourquoi nous sommes sur le chemin qui était évoqué dans la présidence de Christian. Noé a été laborieux en ce sens que sa mission impliquait un effort soutenu dans des tâches pas toujours exaltantes, mais sûrement fatigantes. Alors on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce qui me motive, moi, dans ma marche avec Dieu ? Dans le monde, on cherche les honneurs, le pouvoir, les plaisirs, l'argent, les facilités qu'il permet. Et attention, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est forcément à l'abri de ces tentations et de ces recherches. Noé, lui, a construit l'arche pour plaire à Dieu, pas à pas, avec persévérance, et simplement en étant à l'œuvre, il témoignait et transmettait le message de Dieu. C'est ce qui fait que Pierre le qualifie de prédicateur de justice dans 2 Pierre 2, verset 5. Alors, comment proclamer ce que l'on croit ? En parole, bien sûr, mais aussi en acte. Le plus beau discours reste sans effet quand il est contredit par les faits. Hein, vous connaissez, fais ce que je dis, pas ce que je fais. C'est catastrophique. Un exemple, vous voyez l'image de la classe politique aujourd'hui. Je voudrais pas la défendre, mais parmi les gens qui s'engagent dans la classe politique, il y a des gens qui ont la volonté de servir les autres. Mais il a suffi que quelques-uns, et on ne va pas se disputer sur le nombre, soient pris, comme on dit, la main dans le sac, en flagrant délit de tricherie et de malhonnêteté, pour que ça y est, plus personne n'ait confiance. D'où l'importance du verset Colossiens 3, verset 17, « Quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » Je pense que quand on se dit qu'on fait les choses pour Dieu, on les fait encore mieux qu'on les ferait pour soi-même. En tout cas, on essaye. La fidélité dans les petites choses est une manifestation de notre reconnaissance pour le salut dont nous sommes bénéficiaires. Alors j'en arrive à la conclusion. Comment Noé a-t-il glorifié Dieu ? D'abord par sa façon de vivre, juste, intègre, marchant avec Dieu. Cela lui a valu d'être choisi par Dieu pour participer à son plan de salut. Et qu'attendait Dieu de la part de Noé ? Qu'il construise l'arche, le moyen par lequel il voulait réaliser son plan de salut. Cela supposait un engagement dans la durée et donc de la persévérance. Et là encore, j'imagine les pensées de Noé à la fin d'une journée de travail. Alors aujourd'hui, j'ai abattu tant d'arbres, j'ai scié tant de planches, j'ai enduit tant de seaux de goudron. Et il en reste, alors vous imaginez, au bout de 10 ans, quand il a fait le bilan, au bout de 20 ans, au bout de 30 ans, au bout de 40 ans. Il a souvent dû avoir l'impression que les choses n'avançaient pas assez vite. Mais chaque matin, il se levait et il reprenait l'ouvrage. Nous aussi, nous pouvons être découragés par l'ampleur de la tâche. Qui suis-je pour annoncer la parole ? Est-ce que vous croyez que Noé se sentait compétent au départ ? Pour construire une telle arche ? Est-ce qu'il y serait parvenu sans les instructions de Dieu ? Nous pouvons être convaincus que Dieu n'abandonne pas ses ouvriers. Quand il nous demande quelque chose, il nous donne le moyen de le faire. Il y a des obstacles sur ma route. Vous croyez vraiment que Noé n'a jamais rencontré d'obstacle sur les 120 ans qu'a duré son chantier? Enfin, tous les gens qui ont entrepris un projet, quel qu'il soit, savent bien que ça ne se déroule jamais comme on l'a prévu de A à Z. Il y a toujours quelque chose qui vient contrarier. La persévérance de Noé au quotidien honorait Dieu comme la nôtre lorsque nous décidons de persévérer à lire la parole de Dieu, même si notre emploi du temps est surchargé. Aménager un temps de prière, à participer aux réunions de l'Église, à assurer le service dans lequel nous nous sommes engagés. Toutes ces petites victoires, j'ai mis « petites » entre guillemets, au quotidien, sans être spectaculaires ni forcément connues des autres, honorent Dieu. Car elles sont la réaffirmation de notre volonté de lui plaire et de notre amour pour lui. N'oublions pas le but à atteindre. Pour Noé, c'était la construction de l'arche pour bénéficier du salut de Dieu. Pour nous aussi, c'est une question de salut. C'était rappelé par la présidence de Christian, il y a des choix à faire. Et j'espère que nous pourrons tous dire, comme Paul, « J'ai combattu le bon combat, J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. À Noé, il a été beaucoup demandé construire l'arche. Mais la parabole des talents, que je ne prendrai pas le temps de détailler, vous vous rappelez, c'est un serviteur qui part en voyage, qui convoque trois de ses... un maître qui part en voyage, qui convoque trois de ses serviteurs et qui leur confie à l'un 5 talents, à l'autre 2 et au troisième 1 talent. Le récit nous dit qu'il s'écoule beaucoup de temps et qu'au retour du maître, il demande au serviteur de rendre compte. Vous souvenez-vous de ce qu'il a déclaré au serviteur à qui il a confié les 5 talents, la plus grosse somme? Est-ce que vous vous souvenez? C'est bien. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Alors, vous imaginez, on parle beaucoup par les smileys en ce moment. Hein. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Ah, peu de choses. 5 talents. J'ai regardé, je ne sais pas si c'est vraiment une conversion en or, mais 1 talent, c'est 49 kilos. 5 talents, si c'est 5 talents d'or, en tout cas, c'est une somme considérable. Et est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il a dit au deuxième serviteur, celui qui avait reçu 2 talents et qui en a produit 2 autres? Mot pour mot, la même chose. Et ça, ça nous encourage. Parce que finalement, à ceux qui peuvent beaucoup, Dieu demande beaucoup, et à ceux qui peuvent moins, Dieu demande moins. Et qu'est-ce qu'il a dit au serviteur à qui il avait confié 1 talent, et qui lui a dit « j'ai eu peur, je suis allé l'enterrer, tiens, voilà ton bien ». Méchant serviteur. Ce qui lui est reproché, ce n'est pas d'avoir peu de compétences, c'est de ne pas avoir mis ses compétences au service de Dieu. C'est Paul qui dit que dans l'Église, chacun a reçu un don, voire plusieurs. Ce que Dieu attend, c'est que chacun de nous mette ses dons, les siens particuliers, en œuvre, à son service. Ma prière ce matin, c'est que Dieu me dise un jour, ainsi qu'à vous tous, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. Amen. »